Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 13 avril. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'intervention très attendue d'Emmanuel Macron ce soir. Durée du confinement, reprise économique. Le chef de l'État a pris le temps de consulter scientifiques, élus, patrons, syndicats. Nous verrons avec Yaël Gauze ce que peut dire le président. Les autres titres, Agnès.
Le confinement semaine 5. Les forces de l'ordre restent mobilisées pour faire respecter les règles. Devra-t-on travailler plus après la reprise? La polémique est lancée. Des tests sérologiques nécessaires mais toujours pas au point. Quand le Mossad aide Israël à trouver des masques. Et puis le Tour de France officiellement toujours maintenu mais de plus en plus hypothétique.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Deux semaines ça va, trois semaines ça pique, quatre semaines ça devient franchement dur. Mais au-delà, comment éviter les dégâts d'un confinement qui dure pour les enfants et pour les parents? On pose la question à un spécialiste de la psychiatrie de l'enfant à l'hôpital Robert Debré à Paris. Le pédopsychiatre Richard Delorme sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale aujourd'hui l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Son dernier livre publié s'intitule « Nuit d'épines », c'était aux éditions Plon. Vous pourrez dialoguer avec Christiane Taubira tout à l'heure au 01 45 24 7000.
France Inter. Emmanuel Macron doit donc prendre la parole ce soir un peu après 20h pour laisser le temps aux Français d'applaudir les soignants depuis leur fenêtre ou leur balcon. Quatrième intervention du chef de l'État depuis le début de la crise sanitaire et alors que débutera donc demain la cinquième semaine de confinement. Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour Agnès.
Une intervention très attendue. Alors évidemment Yaël, vous n'avez pas de boule de cristal, mais que doit-il dire? Que peut-il dire Emmanuel Macron?
D'abord ce qu'il va dire, car même si l'encre ne sera sèche qu'à 20h, on sait qu'il y aura deux messages forts. Première des priorités, continuer de protéger les Français. Le système hospitalier tient bon, c'est un motif de fierté. Priorité 2, maintenir l'union nationale alors que le débat sur la sortie du crise commence à monter. Ce soir, le président va dire aussi merci à la troisième ligne, c'est-à-dire à vous, à moi qui restez confiné, ce qui sauve des vies, insiste son entourage. Mais confiné jusqu'à quand? Au moins jusqu'au 10 mai, c'est une hypothèse de travail. Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais il y a d'abord un tunnel. Et le président est très sensible aux avis de son conseil scientifique, inquiet à l'idée de déconfiner trop vite, sans stratégie, la peur de la deuxième vague épidémique. Pour sa quatrième intervention en un mois, le président devra aussi clarifier sa doctrine sur les masques, sur les tests, sur le traçage numérique. Le président, pas très chaud, nous dit-on. La recherche, a-t-il été convaincu par le professeur Raoult et les municipales? Un deuxième tour le 21 juin paraît de plus en plus illusoire.
Alors le contexte de cette nouvelle intervention, Yaël, est plus difficile pour le chef de l'État, car en un mois, la défiance des Français s'est installée.
Ouais, les Français veulent bien faire la guerre à un virus si on y met les moyens. Sondage IFOP pour le JDD, 55% de Français faisaient confiance le 20 mars au gouvernement. Ils ne sont plus que 38% aujourd'hui. Seuls les électeurs En Marche tiennent bon. À l'angoisse sanitaire vient s'ajouter un choc économique que le confinement rend virtuel alors qu'il est parfaitement réel. C'est la ligne de crête du président ce soir. L'épidémie atteint son plateau, mais pas au point de baisser la garde. Entre principes de précaution sanitaire et urgence économique, gardez la balance équilibrée.
Merci Yaël Gauze, chef du service politique de France Inter. Et l'intervention du chef de l'État est bien sûr à suivre ce soir en direct sur Inter. Élément déterminant des choix que doit faire l'exécutif, les chiffres de l'épidémie. Le Covid-19 a tué 14 393 personnes en France, dont 561 au cours des dernières 24 heures. Le niveau est toujours élevé. En revanche, pour la quatrième journée consécutive, le nombre de malades pris en charge dans les services de réanimation est en légère baisse. Il était hier soir de 6845. Le confinement devrait donc être prolongé de plusieurs semaines, mais avec le beau temps, les vacances et les week-ends prolongés du mois de mai, il est difficile de rester chez soi. Les forces de l'ordre restent donc mobilisées pour faire respecter les règles. Reportage ce week-end à Chelles, en Seine-et-Marne, signé Yann Gallic.
Les policiers contrôlent tous les promeneurs qui s'aventurent sur les bords de Marne, en particulier le long des berges et des chemins de halage, désormais interdits au public.
L'accès à la passerelle est interdite.
Ah bon ?
Je fais du préventif, mais normalement, à partir de ce moment-là, c'est du répressif, hein, normalement. D'accord ?
Fabien vient de se faire contrôler avec sa femme et son fils de 9 ans.
D'être enfermé, c'est pas marrant. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Est-ce que j'ai entendu parler que ça pourrait durer jusqu'à fin mai ? La seule chose que je souhaite, c'est que ça soit fini pour les grandes vacances, parce que nous, on a réservé, on voudrait partir quand même, qu'on soit pas coincé non plus.
Sans attestation valable, Veuillez rentrer chez vous immédiatement.
La police surveille la zone avec un drone qui diffuse des messages de prévention. Christine vient d'échapper de justesse à une amende car elle voulait faire du sport en dehors des heures autorisées. Après un mois de confinement, elle commence à trouver le temps long.
J'habite en appartement, je dois vous avouer que ça devient compliqué en effet. Si je sors pas faire un tour, je me vaute sur le canapé, c'est pas une solution. Ça devient long. Parce qu'en temps normal, je suis sportive, je fais pas mal d'activités. Et là, ça commence à vraiment beaucoup me peser.
Sachant que le confinement risque d'être encore prolongé, ça va devenir de plus en plus dur, avoue Christine, physiquement, mais surtout psychologiquement.
Reportage de Yann Gallic. Le chef de l'État sera également très attendu ce soir sur la reprise de l'économie, alors que 8 millions de salariés sont désormais au chômage. Durant ces dernières 48 heures, plusieurs voix au sein du gouvernement et du patronat ont prévenu qu'il faudrait sans doute ensuite travailler plus pour rattraper la perte d'activité et donc se poser la question, selon le patron du MEDEF notamment, du temps de travail, des jours fériés, des congés d'été. Des prises de position scandaleuses pour Laurent Berger, le patron de la CFDT, invité hier soir du 20h de France 2.
C'est totalement indécent. C'est totalement indécent. Aujourd'hui, les travailleurs, comme tout le monde, sont en train de payer le coût de cette crise. Ce n'est pas à eux de payer ensuite par des slogans qui sont lancés aujourd'hui, les vieilles lunes qui reviennent en disant il faudra travailler plus, il faudra de la sueur et des larmes, etc. Puisque certains, notamment du patronat, veulent parler de la suite, on ferait mieux de parler de aujourd'hui, les entreprises, elles contribueront comment au bien commun? Quels seront leurs engagements puisqu'elles bénéficient également des aides pour développer une économie plus vertueuse? Moi, je vous le dis, cette polémique qui a été lancée et qui a été reprise par une secrétaire d'État, elle est indigne, c'est pas le sujet. Les salariés, ils en feront des efforts. Et dans les entreprises, on pourra faire, comme on l'a fait dans des périodes de crise, des accords particuliers. Mais je crois que de parler de la suite de cette crise en disant « voilà, il faudra de la sueur et des larmes », c'est une grosse erreur.
Le patron de la CFDT, Laurent Berger. Alors parler d'une reprise progressive dans les grandes entreprises, c'est parfois possible. Toyota à Valenciennes a annoncé ce week-end une relance de la production d'ici 8 jours. Mais dans certains secteurs et surtout dans les petites structures, Maxime Depp, ce sera beaucoup plus long.
Il y a le MEDEF qui parle au nom des grands groupes et Alain Griset, président de l'UDP qui représente les artisans, les professions libérales et qui voit bien que revenir à la situation d'avant sera sans doute compliqué.
Il va falloir faire revenir nos salariés dans les entreprises. Il y a des gens aujourd'hui qui nous parlent de la mort alors qu'ils n'auraient jamais parlé de ça avant.
Patrick Liebus représente, lui, les artisans du bâtiment.
Nous, on a aussi une particularité, c'est qu'on travaille chez des particuliers et certains, comme ils sont en confinement, eh bien, refusent que l'on puisse travailler chez eux.
Autre souci dans le BTP, les nombreux chantiers aujourd'hui à l'arrêt, municipal en suspens, pas d'élus désignés, contrat gelé et une activité qui, de fait, ne pourra pas redémarrer, même avec la meilleure volonté. François Asselin, président de la CPME, veut, quoi qu'il en soit, des garanties avant.
Comment pourra-t-on ouvrir progressivement les chantiers? Sous quelles conditions? Tout cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain. On a tous des fourmis dans les jambes, mais qu'on soit rassuré sur la protection de nos salariés, qu'on soit rassuré sur les modes d'accompagnement des entreprises, parce que vous savez, pour l'instant, nous faisons des emprunts, certes garantis par l'État, mais ça reste des emprunts. Et il faudra bien imaginer demain comment nous pourrons rembourser tout cela, parce qu'on voit bien évidemment que le calendrier s'allonge.
Calendrier qui s'allonge au point que la plupart sceptiques n'envisagent pas de reprise réelle avant septembre, même à considérer un déconfinement au mois de mai, il y aura les ponts, puis les vacances d'été. Pas vraiment de quoi stimuler l'activité.
Et certains anticipent effectivement déjà sur un confinement prolongé et ou une interdiction de rassemblement. Ainsi, l'édition 2020 du Festival de Musique Solidays est annulée. Il devait se tenir à Paris du 19 au 21 juin. L'une des conditions du déconfinement sera peut-être la généralisation des tests pour savoir quel pourcentage de la population a été infectée par le Covid-19. Certains laboratoires les proposent déjà, mais attention, ces tests sont en cours d'évaluation. Et Véronique Julien, ils ne seront pas tous homologués et pour cause.
Le marché est énorme. Mais les industriels sont impatients, on peut comprendre qu'ils poussent pour une validation et une commercialisation rapide. Mais ces tests, on en compte plusieurs dizaines, sont en cours d'évaluation et d'homologation. Les résultats devraient être connus dans la semaine. Avant, il est prématuré de vouloir s'y fier, car ces tests semblent pour l'instant de qualité et de performance inégales. Sur des contrôles récemment effectués, on s'est rendu compte par exemple qu'ils pouvaient conduire dans 2 à 5% des cas à ce qu'on appelle des faux positifs. On vous dit que vous avez été en contact avec le virus alors que ce n'est pas le cas. Le test a fait une erreur, il a reconnu dans dans le sang des anticorps liés à d'autres coronavirus que celui qu'on cherche. Bruno Lina est virologue.
5%, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est énorme. Imaginons qu'on teste 20 000 personnes. Eh bien 5% d'erreur sur 20 000 personnes, ça fait 1000 personnes diagnostiquées positives alors qu'elles ne le sont pas.
À l'inverse, on peut avoir des faux négatifs. Vous avez croisé le virus, mais le test ne le voit pas. Et puis il faut faire ces tests au bon moment, pas trop tôt après l'infection, car les éventuels anticorps ne sont pas forcément détectables tout de suite. Il faut aussi savoir manipuler les tests rapides et savoir interpréter les résultats, savoir les recouper aussi avec les résultats des tests virologiques. Dans la foulée des évaluations qui seront rendues, la Direction générale de la Santé devrait bientôt présenter sa stratégie de diagnostic.
France Inter, il est 7h10. Les cours du pétrole, Agnès, repartent à la hausse ce matin.
Réaction logique des marchés après la signature définitive de l'accord entre les pays producteurs de pétrole qui se sont donc engagés à baisser la production à hauteur de 10 millions de barils par jour pour tenter de stabiliser les prix en chute libre depuis plusieurs semaines. L'épidémie en Europe, avec un signe d'espoir en Italie qui a enregistré hier son bilan le plus faible depuis 3 semaines, 413 décès en 24 heures. En Grande-Bretagne, Boris Johnson est sorti de l'hôpital, le Premier ministre britannique qui a reconnu dans une vidéo que tout aurait pu basculer pour lui. Et puis en Espagne, timide retour à la normale avec la réouverture ce matin des entreprises non essentielles. Et pour éviter une deuxième vague de contamination, le gouvernement espagnol annonce la distribution de 10 millions de masques pour les personnes obligées d'emprunter les transports en commun. Les masques, justement, objet d'une concurrence sans merci entre tous les pays de la planète. En Israël, où le gouvernement n'a pas hésité à utiliser les moyens de lutte contre le terrorisme pour pister les malades, le célébrissime Mossad, service de renseignement extérieur, a également été mis à contribution pour importer du matériel. Correspondance à Jérusalem de Frédéric Mettezou.
27 respirateurs, 20 000 tests, 10 millions de masques chirurgicaux, c'est la collecte du Mossad à l'étranger selon la chaîne 12. Benjamin Netanyahou lui-même se félicite de livraisons énormes depuis la Chine ou l'Inde, mais le Mossad importe aussi depuis des pays qui ne reconnaissent pas Israël, comme les pays arabes du Golfe. Le Mossad est souvent admiré ici pour la capture du nazi Eichmann en Argentine, l'élimination des terroristes des Jeux de Munich ou le vol à Téhéran d'informations sur le programme nucléaire iranien. En communiquant ainsi, Netanyahou entretient la légende du service et il soigne l'image de son directeur Yossi Cohen, l'un de ses proches qu'il verrait bien lui succéder un jour comme Premier ministre. Mais la chaîne 12 révèle aussi qu'une partie du matériel médical a été volée à l'étranger. Le ministère de la Santé a reconnu que les premiers tests avaient été importés sans écouvillon et surtout ce recours en urgence au Mossad confirme que le système public de santé israélien était sous-financé et sous-équipé avant cette crise. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Enfin, il est toujours pour l'instant le dernier événement sportif majeur de l'été à être maintenu. Officiellement, le Tour de France doit s'élancer de Nice le 27 juin, mais avec les annonces du président de la République attendues ce soir et la prolongation quasi inéluctable du confinement, le Tour se dirige tout droit vers un report, mais pas encore vers l'annulation pure et simple. Fanny Lechevestrier.
Coucou à tous, j'espère que là on me verra bien.
Entre Lilian Calmejane qui donne un cours de renforcement musculaire sur les réseaux sociaux et Thibaut Pinot qui partage le quotidien de sa chèvre King Goat à travers des vidéos, le peloton n'a pas vraiment la tête au Tour de France. Privé de sortie, chacun se change les idées comme il peut. Car aujourd'hui, si officiellement le départ de la course est maintenu au 27 juin, plus personne ne se fait d'illusions, reconnaît Marc Madiot, le patron de l'équipe Groupama FDJ.
Pour la fin du mois de juin et le mois de juillet, je pense que ce sera sans doute un peu plus tard dans l'été. C'est logique que pour l'instant, on n'ait pas de visibilité.
Avec un peloton suspendu à la date de fin du confinement, impossible de partir si les coureurs n'ont pas 2 mois pour se préparer, a reconnu Christian Prudhomme, le directeur du Tour. Mais tous veulent encore croire à un événement disputé fin juillet. Vincent Lavenu, le patron de l'équipe AG2R La Mondiale.
Ce serait un signe quand même encourageant pour la reprise en général de l'économie française, de la vie sociale. Si le Tour pouvait partir, ce serait certainement un bon moyen de retrouver un peu d'enthousiasme, des perspectives favorables pour le futur.
Mais là encore, les organisateurs sont dans le flou le plus total avec cet autre inconnu. La France autorisera-t-elle cet été des rassemblements de plusieurs centaines de personnes? Le Tour réunit chaque année plus de 10 millions de spectateurs sur 4000 km de route.
Merci Agnès. C'était le journal d'Agnès Soubiran.